Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir juste quelques instants? C'est un plaisir de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Je crois que Dieu est là. Et ma plus grande crainte, ce serait d'abîmer ce que Dieu veut faire. Ce matin, on a prévu de parler de la présence de Dieu et je crois que le mieux, c'est d'expérimenter la présence de Dieu plutôt que d'en parler. J'aimerais lire un texte avec vous. Vous savez, je priais ce verset de l'Écriture ce matin et hier matin pour ma vie. Je disais, Seigneur, rends-moi la vie selon ta parole. Quand Dieu envoie sa parole, quand Dieu envoie sa voix, ça te rend la vie. En fait, on est le peuple le plus vivant des vivants. On devrait en tout cas. Dis à la personne à côté de toi, sois vivant, sois vivante. On va lire un texte dans Nombre au chapitre 9, s'il vous plaît, on va l'afficher. Ce que j'aimerais partager avec vous, c'est d'apprendre à être en mouvement avec la présence de Dieu. Je pense que je vais prêcher vraiment court ce matin pour qu'on puisse continuer à vivre ce que Dieu fait. Est-ce que vous sentez la présence de Dieu là ? Dieu est là, hein ? Seigneur, merci pour ta présence. Vous savez, je ne veux jamais prendre pour acquis la présence de Dieu. Tu ne me dois rien, Seigneur, tout n'est que grâce. Et je te dis merci pour ça. Merci pour ta présence. Nombre, chapitre 9, versets 15 à 23. Certainement un texte que vous connaissez, mais il est dit ceci, le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Verset 16, il en fut continuellement ainsi. Est-ce qu'on peut dire ensemble, continuellement ainsi? Encore une fois, continuellement ainsi. C'est important ça, parce que quand Dieu a voulu positionner le tabernacle au cœur du peuple, il a voulu que le tabernacle soit accompagné continuellement de sa présence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le plan de Dieu, dans le cœur de Dieu, Dieu n'a jamais pensé ou n'a jamais eu comme option que nous puissions être l'Église sans sa présence, que nous puissions être ses enfants sans sa présence. C'est son cœur qu'il en soit continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et elle avait l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'est levée de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle deux jours ou un mois ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Amen. Si on n'a pas compris que c'était la présence de Dieu qui fixait le tempo, on n'a pas compris ce texte. C'est comme si Dieu voulait qu'on le comprenne dans tous les sens. S'il s'arrêtait un jour, il fallait partir le lendemain. S'il restait deux jours, on restait deux jours. Si Dieu décidait de bouger du jour au lendemain, on bougeait du jour au lendemain. Des fois, Dieu pouvait s'arrêter un an au même endroit. Et on devait attendre un an que Dieu bouge pour se mettre en mouvement. Et vous savez, je priais ce matin et je disais, Seigneur, vous savez, et je crois qu'il faut que Dieu nous aide à avoir une vision rectifiée de ce que Dieu veut faire avec nous. Le but de Dieu, ce n'est pas de vous perdre ni de me perdre. Le but de Dieu, c'est que nous soyons de plus en plus forts pour pouvoir entrer dans la vie éternelle, dans un endroit où même la mort ne pourra plus vous voler la vie que Dieu vous a donnée. Et souvent, on a une image de Dieu qui est comme juste un chef militaire et qui est en train de vouloir former des troupes pour le combat futur. La bonne nouvelle, c'est que le combat futur, il est déjà gagné. Et même si nous sommes des piètres soldats, le combat est déjà gagné. Ça ne dépend pas de savoir si on est capable de manier des armes puissantes ou si on a beaucoup d'endurance ou pas. Gloire à Dieu que ce qui est puissant dans sa parole, Dieu ne dit pas de nous que nous sommes fidèles, il dit de lui qu'il est fidèle. Donc ce n'est pas ma fidélité qui est le critère de l'amour de Dieu ni de son action. Et dans ce texte-là, il y a toute cette dimension de Dieu qui dit « La nuit est restée longtemps sur le tabernacle, les enfants obéissaient. » Quand la nuit restait peu de jours, ils obéissaient. Quand elle s'arrêtait le soir au matin et qu'elle s'élevait le soir le matin, ils partaient. Et je disais, Seigneur, mais pourquoi tout ce mouvement, comme on dirait, saccadé? Des fois, c'est un jour, et là, tu plantes ta tente. Il faut savoir que là, on parle de plusieurs millions de personnes qui sont dans le désert et qui vont vers la terre promise. Et lorsqu'on sait, on le répète souvent, ça a mis à 11 jours de marche entre l'Égypte et Canaan. Et eux, ils ont mis 40 ans. Pasteur Omaric a montré la carte là avec tous les détours. Et je lisais ce texte, je dis Seigneur, mais pourquoi tant de détours? Alors bien sûr, il y a toute la dimension de désobéissance à certains moments qui a rajouté du temps. Mais la motivation première du désert, ce n'était pas la désobéissance. Dieu a dit, je vais les faire passer par le désert parce qu'ils ne sont pas assez forts encore pour passer par le chemin le plus court, parce qu'il va y avoir des combats qui vont être trop violents pour eux et ils ne vont pas pouvoir traverser. Donc la motivation de Dieu, ce n'était pas de les punir de leur désobéissance en premier, c'était de les rendre de plus en plus forts. C'était ça sa motivation. Et je regardais, je dis, Seigneur, mais quand même, il y a des jours où tu t'arrêtais un jour. Je ne sais pas si vous imaginez, est-ce que vous avez déménagé ces 10 dernières années au moins une fois? Ça vous est arrivé une fois? Combien aiment passionnément les déménagements? Quand tu sais que tu vas déménager, tu te dis « Oh, gloire à Dieu, je vais me porter tous les meubles. » Mais le pire du déménagement, ce n'est pas ça. C'est si tu sais que tu dois redéménager le lendemain. Parce que quand tu lis la parole de Dieu, Dieu leur demandait de s'installer là où ils s'arrêtaient. C'est-à-dire qu'on arrivait, on déballait la tente, on posait nos affaires, on se plantait comme si on restait. Et des fois, le lendemain, Dieu disait « On repart. » Est-ce que Dieu est instable? Imaginons, le pasteur Romaric qui nous dit « Eh bien, aujourd'hui, on va changer l'ordre des cultes. Il y en aura 6 par mois. On va inventer des dimanches. » Et voilà. Et le lendemain, il revient nous voir et dit « Non, à partir de demain, il n'y en aura plus que 2 par mois. » Qu'est-ce qu'on dirait de lui? Il est instable, le frère. Trop de rasta. Trop de rasta, c'est trop lourd d'un côté. Fais un vœu de pureté comme moi. Et Dieu, des fois, partait au bout d'un jour. Alors j'imagine ce peuple qui refaisait son paquet et qui devait repartir pour une journée. Mais il y a aussi l'inverse. Des fois, Dieu s'arrêtait un an. Comment est-ce que vous vivez les situations de vos vies lorsque votre vie semble sur pause pendant un an? Parce que là, ils ne sont pas arrêtés un an à Canaan, ils sont arrêtés un an dans le désert. Et parfois on se dit, Seigneur, mais où est-ce que tu es dans mon désert? Seigneur, pourquoi ma vie stagne? Pourquoi ça avance pas? Pourquoi ça semble sclérosé? Et dans les deux cas, dans le cas où Dieu disait, on bouge demain, et dans les cas où Dieu disait, on s'arrête pendant un an, ce que Dieu voulait faire, ce n'était pas perdre son peuple. Ce n'était pas qu'ils se lassent de lui, qu'ils aient l'impression qu'il les avait abandonnés ou qu'il les mette sous pression pour qu'ils soient testés. Le but, vous savez, Dieu n'est pas... Il faut vraiment que Dieu nous libère de cette vision d'un Dieu un peu pervers qui passe sa vie à nous tester. Moi, je ne teste pas mes enfants à longueur de journée. Des fois, ça arrive que je les mette en situation pour voir s'ils sont autonomes. Mais je ne passe pas ma vie à leur faire des petits pièges pour voir s'ils réussissent. Quel est le père qui ferait ça? Et Jésus a dit, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien le Père Céleste est capable de vous donner des choses encore plus excellentes? Donc il faut qu'on ait une image recalibrée de Dieu. Et là on voit que le but de Dieu c'était quoi? Et je dis Seigneur, c'est pourquoi tu as fait ça avec ce peuple? Pourquoi tu les as rendus fous? Parce que moi je deviens fou quand je lis ça. Et parce que des fois dans ma vie je dis Seigneur, mais tu me rends fou. Des fois j'ai des prières exaucées en une seconde, des fois j'ai des prières il faut des mois, des fois et des prières je sais qu'ils seront exaucées quand je ne serai plus sur cette terre. Seigneur, pourquoi il y a des moments donnés où j'ai l'impression que ton mouvement est rapide et des moments donnés, j'ai l'impression qu'on a appuyé 10 fois sur pause? Eh bien, moi, ce que Dieu me disait ce matin, et je le crois profondément, c'est que Dieu voulait leur apprendre à vivre au rythme de sa présence. En fait, ce qui compte, ce n'est pas savoir si ma vie avance. Ce n'est pas savoir si on traverse tant de déserts ou si on est dans la terre promise. Nous jugeons nos vies en fonction de la bénédiction. Le problème, c'est que la parole de Dieu juge nos vies en fonction de la présence de Dieu. Et dans ce texte-là, on voit que Dieu a appris, n'a pas testé son peuple, il a appris à son peuple à marcher à son rythme. Il a appris à son peuple à lui faire confiance. Si Dieu dit « on avance », c'est qu'il faut avancer. Si Dieu dit « on s'arrête », c'est qu'il faut s'arrêter. Une pause dans ta vie peut être une bénédiction de Dieu. Lorsque tu es dans un désert, ce n'est pas le désert que tu dois regarder. C'est de savoir « est-ce que Dieu est dans mon désert ?» Parce que si Dieu est dans ton désert est le meilleur endroit. Et si tu es dans l'abondance, Moïse, à un moment donné, Dieu en avait assez de ce peuple d'Israël qui n'écoutait rien. Et Dieu a dit à Moïse, puisque vous voulez tellement la bénédiction, je vais vous la donner. Je vais envoyer mon ange devant vous et il va chasser tous les peuples qui seront dans le pays de Canaan, mais moi, je ne viens pas. Et la réponse de Moïse, elle est incroyable. Je pense que ça doit être dans Exode 32 ou 33, je pense, ce passage. Mais la réponse de Moïse, elle est incroyable. Il dit à Dieu, il dit, Seigneur, je préfère mourir au désert avec toi que d'entrer dans le pays de la bénédiction sans toi. Parce que Moïse avait appris que la vraie bénédiction, c'est sa présence. C'est ça, l'Église. On pourrait avoir des grands bâtiments. On pourrait avoir les plus grandes équipes de louanges. Vous savez, et mon frère Gérard, il va me comprendre ce matin. Vous savez que Gérard, ce n'est pas le plus grand des chanteurs. Et Romaric chante pire. Mais la vérité, c'est que ce matin, Gérard, il nous a amené la présence de Dieu. Et ça, c'est à plus de valeur que tout. Parce que nous, on est l'Église. On est l'épouse. L'épouse, elle est satisfaite de quoi ? De la présence de l'époux. Si on fait des cultes et qu'on a des bons moments, mais que l'époux n'est jamais là, alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a dansé un slow tout seul. C'est un slow tout seul. Tu te fais du bien avec toi-même. Moi, je veux danser avec Dieu. Je veux danser avec sa présence, avec son esprit. Je veux danser avec mon Jésus. La présence de Dieu. Et Dieu veut nous apprendre. Pourquoi on doit apprendre à marcher avec sa présence ? Parce que seule sa présence rend la vie. Parce que seule sa présence rend la vie. Parce que c'est sa présence en toi qui va faire qu'un jour, tu vas fermer les yeux sur cette terre. Mais la mort ne pourra pas fermer tes yeux spirituels. C'est cette présence-là. Qu'est-ce qui fait la différence ? Qu'est-ce qui fait que cette vie éternelle sera pour toujours auprès de Dieu ? C'est parce que Dieu va avoir en toi sa présence. Il va avoir Jésus en toi. On n'a pas une foi religieuse. Vous savez, des fois on dit, si tu crois en Jésus seulement, mais ce n'est pas croire en Jésus. On le sait, les démons croient. C'est plus que ça, c'est que Jésus soit là avec toi. C'est sa présence. Une chose que je priais ce matin, je dis, Seigneur, vous savez, il y a ce passage où il est dit que quand Pierre et Jean sont rentrés dans le... pour être jugés, après avoir guéri cet homme à l'entrée du temple, les gars, les pharisiens, tout ça, disaient, mais c'est des hommes du peuple sans instruction, mais ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. C'est la présence qui a été reconnue. Ils ne connaissent rien, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, mais il y a quelque chose en eux, la présence. C'est pour ça que Dieu a passé son temps à s'arrêter. Les amis, vous savez pourquoi vous avez l'impression parfois que Dieu te dit « va là-bas » et d'un coup il tire le frein à main ? C'est pour voir si tu t'arrêtes. Tu sais pourquoi parfois Dieu s'arrête et dit « on va attendre un an ici » et que toi tu dis « j'en ai marre d'ici ». J'en ai marre de cette situation familiale, professionnelle, amoureuse, financière, qu'importe. Seigneur, tu es au courant que c'est un désert. Mais Dieu fait ça pour savoir si on est satisfait de la bénédiction ou si on est satisfait de sa présence. Et on doit apprendre à bouger avec lui. Et ne croyez pas, ce n'est pas dur de bouger avec Dieu. Le plus dur, c'est d'arrêter de bouger avec vous-même. Parce que nous, on a toujours la meilleure idée que Dieu. Mais c'est d'apprendre à bouger avec Dieu. Le métronome de la présence de Dieu. Dieu a voulu apprendre à son peuple que le métronome qui fixait le tempo, c'était sa présence. C'était sa présence. Vous savez, peut-être qu'on n'aura pas les plus grands budgets, peut-être qu'on n'aura pas les plus grands moyens, peut-être qu'on n'est pas les plus grands prédicateurs, que vous n'êtes pas les plus grands chanteurs, les plus grands danseurs. Et qu'importe en fait. On n'est pas validé sur ça. On est validé sur sa présence. Est-ce que la présence de Dieu est là? Et je veux que son métronome, le métronome de ma vie, soit la présence de Dieu. J'aimerais partager deux choses très rapides avec vous. La première chose que je veux partager avec vous concerne la voix de Dieu. Vous savez, la voix de Dieu, ce n'est pas un son. Toi, il y a des gens qui me disent « j'entends pas Dieu ». Mais la voix de Dieu, ce n'est pas un son. Ça, c'est compliqué parce que nous, la voix, c'est un son. Si je te parle, c'est du bruit. La voix de Dieu, ce n'est pas un son. La présence de Dieu peut venir sur toi, c'est sa voix. Quand Moïse est rentré dans la nuée, il est rentré dans la voix de Dieu. La voix de Dieu, ce n'est pas du bruit. Parce qu'il n'y aura pas beaucoup de gens sur cette terre qui vont entendre la voix de Dieu audible. Ça t'est déjà arrivé? Ok, pas beaucoup quand même. Pas beaucoup parce que ce n'est plus une des manières dont Dieu parle prioritairement aujourd'hui. Mais une chose est sûre, c'est que le but de la voix, le but de la présence par contre, c'est que tu comprennes que sa présence porte sa voix. En fait, il y a comme une confusion dans la parole de Dieu entre la présence de Dieu et la voix de Dieu, entre la présence de Dieu et l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Tout ça, c'est des émanations de la présence. C'est comme si j'ai envie de dire, Davidson, sa présence, c'est quoi? C'est son corps, mais c'est aussi quand il parle, c'est aussi ses mouvements, c'est aussi le fait qu'il, c'est sa couleur de peau, c'est ça sa présence. Vous êtes d'accord? Eh bien Dieu, sa présence, elle a une émanation de toutes sortes de choses, et notamment sa voix. Sa voix n'est pas un son, sa voix c'est un dépôt qu'il fait dans ta vie. Quand tu vis un temps avec Dieu, que tu sens cette paix qui t'envahit, c'est sa voix. Dieu te parle, il ne te parle pas à tes oreilles, il ne parle pas à ton intelligence, il parle à la femme spirituelle, à l'homme spirituel qui est caché en toi. Parce que Dieu vise toujours celui-là qui est caché, des fois il est bien caché celui-là, hein. Dieu parle à l'être spirituel qui est en nous. Donc on a besoin de comprendre que Dieu, dans la présence de Dieu, il y a la voix de Dieu. Et je lis un texte pour vous dans Exode 31, le verset 12, et il est dit ceci. « L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Verset 15. « Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. » Et la nuée de Dieu couvrit pendant 6 jours. Le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée. Il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Dieu a dit à Moïse, viens sur la montagne, je veux te parler. Je veux parler avec toi. Et le peuple d'Israël a vu la présence de Dieu venir sur la montagne. Moïse est rentré et monté sur la montagne. Et je veux juste m'arrêter quelques secondes, mais il est dit que Moïse est rentré dans la nuée et Dieu l'a laissé là pendant 6 jours. Pendant 6 jours, Dieu ne lui a pas parlé de manière audible, de manière vocale. Il était dans la présence. Et le 7e jour, Dieu lui dit maintenant, viens plus loin encore. Et il lui donne les tables de la loi, qu'on connaît tous l'histoire de Moïse. Mais ce qui est puissant, ce texte-là, c'est de voir que Dieu avait mis, non seulement sa voix était dans la présence, mais qu'il y avait une dimension de sa présence, une dimension de sa voix qui est connectée aussi à notre capacité à attendre Dieu, qui est connectée exactement à ce que Dieu a appris à son peuple dans le désert, à marcher au tempo de Dieu. Vous savez, moi, je lisais ce texte, je dis, Seigneur, mais en fait, Moïse est monté sur la montagne, il a fallu qu'il fasse littéralement, lui, une marche sur la montagne pour aller te trouver, et encore une fois sur la montagne, après je ne sais pas combien d'heures de marche, il a fallu qu'il attende encore 6 jours pour que tu lui parles. La voix de Dieu, mes amis, la présence de Dieu, elle est à la fois accessible, mais parfois on passe à côté. Parfois, on passe à côté de ce que Dieu veut faire. Vous savez, dans la présence de Dieu, je veux juste mettre cette parenthèse, il y a toujours la voix de Dieu, toujours. La voix de Dieu, ça peut être le silence aussi. Quand Dieu fait silence, il te parle aussi. Hein. Ça, c'est les trucs que j'aime le moins, moi. Mais la vérité, c'est que si Dieu ne te parle pas, tu crois qu'il ne te parle pas, ton silence est en train de te dire, son silence est en train de te dire, reste là, ne bouge pas. La nuée était sur le tabernacle, elle ne bougeait pas pendant un an. Seigneur, la voix de Dieu, c'est aussi le silence, parce que ce n'est pas un son. Mais voici où je veux en venir. Je disais, je priais, je disais, Seigneur, mais comment ça se fait que moi, je ne parle pas de vous, je parle de moi, comment ça se fait, Seigneur, que moi, Mathieu, il y a des moments donnés, je prie, mais je ne vais pas dans ta présence. Et ceux qui vivent avec Dieu depuis plus de 5 minutes, ou qui ont déjà connu la présence de Dieu, vous savez qu'il y a une grande nuance entre prier et être dans la présence de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 7, tu peux prier comme les païens qui pensent qu'à force de paroles vont être exaucés. En fait, des fois, nos prières, ce sont juste des mots. Vous savez, on utilise l'expression « la prière qui ne dépasse pas le plafond ». Et des fois, c'est vrai en vrai. Des fois, nos prières, elles ont rebondi sur notre plafond. Mais je dis, Seigneur, comment ça se fait que des fois, j'ai l'impression que je prie et je ne rentre pas dans ta présence. Et Dieu m'a ramené dans ce texte-là, de voir la vie de Moïse. Moïse qui est monté sur la montagne. Moïse qui a pris du temps pour aller devant la montagne. Moïse à qui Dieu a dit, attends 6 jours avant d'entrer encore plus loin dans ma présence. Parfois, le problème, c'est que je cherche plus la prière que la présence. Parfois, je confonds le véhicule qui m'amène à la présence de Dieu avec la présence de Dieu. Écoute-moi bien, si je te dis, allons ensemble à Nice, eh bien, la destination, c'est Nice. Mais pour y aller, on va monter dans la voiture. On est d'accord ? Maintenant, si on croit que la destination, c'est la voiture, on va aller dans la voiture, on va allumer le contact, on va s'habiller peut-être avec les maillots pour aller se baigner sur la promenade des Anglais, mais la vérité, c'est que c'est juste le véhicule. Et parfois, nous cherchons plus la prière que la présence. Parfois, nous sommes apaisés dans notre conscience parce que nous avons prié. Mais ce qui devrait nous satisfaire, ce n'est pas d'avoir prié, c'est de l'avoir trouvé. Et ça change tout. Ça change tout. Parce que vous savez, comme moi, il y a des moments donnés, on prie 5 minutes et on le trouve. Et il y a des moments donnés, il faut prier plus que 5 minutes. Si tu crois que c'est... Il y a des moments donnés, tu restes un jour à un endroit et tu trouves Dieu. Et il y a des moments donnés, Dieu te dit, je vais me cacher un peu. Et encore une fois, pas pour te tester, pas pour te perdre, mais pour que tu grandisses, pour que tu apprennes à le trouver. Parce que mes amis, des voleurs de la présence de Dieu, il y en a partout autour de vous. Partout. Qu'est-ce qui fait qu'on veut sa présence? Je suis sûr, ce matin, on veut tous sa présence. Mais qu'est-ce qui fait qu'à des moments donnés, on se fait voler la présence de Dieu? Eh bien, parce que parfois, on a des soucis qui nous la volent. On prie, mais les soucis nous volent la présence. Tu peux être volé de la présence de Dieu dans la prière à cause des soucis. À combien ça nous est arrivé de ne pas prier, mais de réfléchir devant Dieu? Parce que tu penses... Mon travail, les enfants, la maladie à laquelle je fais face. Et finalement, tu sors de la prière et tu es aussi vide et sec qu'avant d'y rentrer. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas eu la présence. Tu as eu la prière, mais tu n'as pas eu la présence. Les amis, sur cette terre, 95% de l'humanité prie. Ils prient, les hommes prient. Ils prient Allah, ils prient Bouddha, ils prient tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas la prière la clé. La clé, c'est la présence que tu trouves. C'est ça la clé. Et on doit apprendre à ne pas s'arrêter. Vous savez, il est dit ceci dans le psaume 5. J'aimerais lire pour vous. J'ai été touché par ce verset hier matin alors que je lisais ma Bible et je préparais ce message pour ce matin et en même temps je lisais ce verset de David dans le psaume 5 qui va dire ceci. Si on l'a, voilà, psaume 5 verset 4, il va dire « Dès le point du jour, je me présente à toi et puis j'attends. » Il attend quoi ? Le dégel, il attend quoi? Il attend Dieu. Je me présente à toi et puis j'attends. Et j'aime cette... Moi, ce matin, je suis arrivé avec le psaume 5, verset 4 devant Dieu. Je dis, Seigneur, me voici dès le point du jour. Il était 4 heures et quelques. Me voici dès le point du jour, j'attends. Et vous savez ce qui se passe quand on attend Dieu? Il vient. Celui qui cherche... trouve. Celui qui demande, il reçoit. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Et c'est vrai que parfois ça prend du temps. Alors je sais que vous avez des vies, on a tous une vie. On a tous une vie, et dans cette vie, on a tous un horaire. Et je veux nous encourager, nous rassurer. Dieu ne nous demande pas ce que nous ne pouvons pas faire. Dieu vient nous rencontrer dans notre capacité. Quand je me suis converti, je ne priais pas 5 heures par jour. Ce que je faisais quand je me suis converti, voici Mathieu quand il s'est converti. Je mettais mon meilleur CD de louange, Luc Dumont. Il y avait même une comédie musicale, ça s'appelait Joseph le rêveur. Bon, maintenant que je réécoute, je me dis comment Dieu pouvait me toucher sur ça. Mais quand même, ça me touchait profondément à l'époque. Et je mettais mon meilleur truc, j'avais ma montre là. Oh, je priais, je me donnais. Et j'ouvrais les yeux, et j'ai dit, punaise, ça fait que 5 minutes. Ah, il y a des connaisseurs, hein. Je vois que je ne suis pas le seul comme ça. Mais vous savez quoi, Dieu me rencontrait dans ces 5 minutes. Parce qu'en réalité, c'est notre Père. Et notre Père veut passer du temps avec nous. Vous savez que toute l'histoire biblique, c'est l'histoire de Dieu qui veut passer du temps avec vous. C'est toute l'histoire de la Bible. Seulement, s'il nous l'avait dit en une page, on n'aurait pas cru. C'est trop simple. Alors, on nous l'a dit en 2500 pages. Fine comme du papier à cigarette. Ça n'existe pas plus fin que les pages de vos Bibles. Hein. Mais c'est pour vous montrer qu'il vous aime. Vous savez, si un amoureux écrit une lettre d'amour à sa promise, là, il lui écrit une lettre d'amour, je t'aime. Frère, ça ne marchera pas. Il faut que tu mettes plus de contenu dedans, des vers, un élan lyrique. Eh bien, Dieu nous a prouvé qu'il nous aimait en nous donnant un livre si gros, en fait. Juste parce qu'il nous aime. La prière est un véhicule, et la présence de Dieu, c'est la destination. Alors bien sûr, on doit apprendre à utiliser le véhicule, mais on ne doit pas être satisfait juste du véhicule. Le mieux, c'est la destination. Et je termine par ceci. J'aimerais inviter l'équipe, si vous voulez bien, on va avoir un temps ensemble dans la présence du roi, parce que Dieu est là. Alors ça va. Vous savez pourquoi vous vous sentez bien quand vous sortez de la présence de Dieu ? Ah bien sûr, vous avez rencontré Dieu, bien sûr, vous avez senti sa présence, bien sûr, vous vous sentez en confiance. En général, quand on a eu un temps de face à face avec Dieu, on se sent confiant, non ? On se sent aimé. Mais la raison pour laquelle on se sent bien, c'est parce que quand tu es dans la présence de Dieu, tu es le vrai toi. Tu es le vrai toi. C'est ça. Parce que toi, là, toi, Dieu ne t'a pas créé rempli de soucis. Dieu ne t'a pas créé rempli d'incrédulité. Dieu ne t'a pas créé rempli de péché. Dieu ne t'a pas créé rempli de combat intérieur. Dieu ne t'a pas créé découragé. Dieu ne t'a pas créé malade. Tout ça, là, c'est les fruits du péché dans notre vie. C'est le fruit de la chute dans notre vie. Mais quand on est dans la présence de Dieu, en fait, je suis moi-même dans sa présence. Quand tu sors d'un temps de la présence de Dieu, que tu as la foi là. Vous savez, ces moments où tu as la foi de « Ouh là là, ça va faire mal. » Mais ça, c'est la foi que tu as en toi. La vraie foi que Dieu veut réveiller en toi. Ces moments où tu te sens confiant. Alors que des fois, au bout de 2-3 jours, tu perds cette confiance. Mais rappelle-toi que le vrai toi, celui qui est en Christ, celui qui est sauvé, celui qui est renouvelé, celui-là, il est dans la confiance. Celui-là, il est dans la foi. Celui-là, il est dans la victoire. Celui-là, il connaît qui est son Dieu. C'est ça qui est important. C'est pour ça que quand on est dans la présence de Dieu, on se souvient, on redécouvre qui on est vraiment. Et c'est pour ça qu'en tant que croyant, on ne peut pas affronter ce monde ou affronter la vie ou affronter l'ennemi juste avec nos propres forces. C'est le moi que Dieu a voulu. C'est celui-là que je veux présenter à mon ennemi. C'est celui-là que je veux présenter à mes circonstances. C'est celui-là que je veux présenter à mes montagnes. C'est celui-là. Moi, je dis souvent à ma femme, Mathieu, sans Jésus, il n'a pas changé. T'enlèves Jésus, il y a Mathieu, quoi. Quelle galère. Mais toi, c'est pareil. Toi, c'est pareil. Et c'est dans la présence de Dieu qu'on redécouvre, en fait, qui on est, qu'on redevient qui on est. Moi, je pense à Moïse au buisson. Moïse au buisson ardent, il est rentré dans la présence de Dieu. Dieu lui dit, le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Pas parce que c'était un endroit spécial du désert, mais parce que Dieu était là, parce que c'était sa présence. Et vous savez l'histoire, on connaît l'histoire de Moïse, on lit dans Hébreux, il est dit ceci, que Dieu avait parlé à Moïse et que Moïse croyait que son peuple comprendrait que Dieu accordait la délivrance par sa main quand il a tué l'Égyptien. Moïse ne s'est pas levé un matin en disant, tiens, si je tue un gars. C'est parce que Dieu lui a parlé, parce qu'il a compris quelque chose. Il l'a fait pour honorer Dieu, enfin, d'une certaine manière pour faire ce que Dieu voulait qu'il fasse, sauf qu'il a fait de la mauvaise façon. Quel a été le fruit ? Le fruit, ça a été 40 ans de désert. Et là, il se retrouve ce jour-là, 80 ans, avec son bâton, à faire paître le troupeau de son beau-père. C'est même pas ses propres brebis, il a rien à lui. Il est passé du palais à rien du tout. Il n'a rien à lui. Et là, il rentre dans la présence de Dieu parce qu'il voit le buisson qui brûle. Vous savez, le buisson, depuis combien de temps est-ce qu'il brûlait? On ne sait pas. La Bible dit que c'était un buisson qui ne s'en consumait pas. Peut-être que ça faisait 40 ans qu'il brûlait, qu'il passait devant. On n'en sait rien. En tout cas, ce jour-là, il l'a vu. Et il a été attiré par le Moïse. Il a entendu, il a été attentif et il est rentré dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait avec Moïse ? Eh bien, Dieu l'a reconnecté avec qui il était vraiment. Et il est arrivé avec ses objections. Qui suis-je ? T'inquiète pas, je vais te le dire. Qui es-tu ? T'inquiète pas, je vais te le dire. Et si on me dit qui t'envoie ? T'inquiète pas. Dieu lui a donné toutes les réponses et il est sorti de ce moment de buisson. C'était plus juste le Moïse d'avant, c'était le nouveau Moïse. En fait, ce n'était pas le nouveau Moïse, c'est celui qui a toujours été là, mais qu'il avait perdu en lui-même. Le problème, c'est que parfois, tu ne sais plus qui tu es parce que tu manques de présence de Dieu dans ta vie. C'est pour ça que la confusion est toujours le fruit du manque de présence de Dieu dans notre vie. Et c'est pour ça que le diable veut mettre beaucoup d'énergie pour nous empêcher d'aller jusqu'à cet endroit-là, dans la présence. L'ennemi a beaucoup d'intérêt de nous laisser prier, mais pas d'aller dans la présence. Il va te laisser monter sur la montagne, mais au trois quarts, il va dire, allez hop, 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 on s'arrête là. T'as assez fait, de toute façon, Dieu entend, Dieu t'aime, alléluia, gloire à Dieu. Mais on perd ce moment, cette présence. Je pense à l'apôtre Paul. Vous savez l'apôtre Paul ? Paul, Saul de Tarse. Est-ce que vous imaginez l'histoire de cet homme ? S'il y a un homme qui a jamais loupé un culte le dimanche matin, c'est Saul de Tarse. Il est là à la prière avant tout le monde et il part après avoir tout rangé après tout le monde. C'est un homme qui aime Dieu. Saul de Tarse, ce n'est pas juste un fou furieux qui se lève le matin et qui dit « Ah tiens, je vais persécuter des croyants. » Il persécute des croyants parce qu'il s'estime plus croyant qu'eux. Donc c'est un homme qui craint Dieu, un homme qui veut plaire à Dieu, qui veut honorer Dieu, qui va à l'église tout le temps, mais il lui manque une chose dans sa vie, c'est la présence. Et vous connaissez l'histoire du chemin de Damas. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Il est sur son cheval, et là, la présence de Dieu vient, boum ! Et là, il a la révélation de Christ, mais surtout, il a la révélation de Paul qui était caché dans Saul de Tarse. Et c'est ça que Dieu veut nous donner. C'est ça que Dieu veut nous donner. Je veux arrêter d'être juste Matthieu qui combat l'ennemi. Je veux arrêter d'être juste Matthieu qui essaye de partager ce que Dieu dit. Je veux être celui qui a été prévu de toute éternité. La Bible dit que tout le nombre de nos jours sont déjà écrits. Ils sont devant ses yeux. Tout est prévu pour nous. Les œuvres sont préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mais c'est accessible seulement dans sa présence. Je ne veux pas offrir à mes enfants la copie de ce que Dieu veut que je sois. Je ne veux pas offrir à mon conjoint, à ce que Dieu me donne, la copie de ce que Dieu veut que je sois. Chacun de nous, on est rempli d'insécurité, d'impossibilité. Mais quand on va dans la présence de Dieu, on est capable de se relever, on est capable d'avoir du courage, on est capable d'être comme Paul, Saul de Tarse, qui dit « Qu'importe d'où je viens, qu'importe tout ce que j'ai appris, je regarde tout comme la boue parce que j'ai découvert l'excellence de Christ. » Il y a quelque chose de plus. Et les amis, rappelez-vous Paul, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a vu la gloire de Dieu, il a vu la présence de Dieu, il a vu cette lumière qui l'a frappé. Première chose qui lui arrive, il devient aveugle. Première chose, il est nécessaire de devenir aveugle si nous voulons marcher à la voie de la présence de Dieu. il est nécessaire. Lorsque vous avez été créés, nous tous, dans le plan de Dieu parfait qui a été pensé à Éden. Rappelez du jardin d'Éden, lisez Genèse chapitre 1er. Dieu a créé l'homme et la femme. Plus tard, il les a mis dans un jardin en Éden. Et puis plus tard, ils vont pécher. La Bible dit que leurs yeux se sont ouverts. Et là, la galère a commencé. Parce que jusqu'à présent, c'était la présence de Dieu qui les dirigeait. Et là, ils ont commencé à se diriger avec leurs yeux. D'où naissent les découragements de nos yeux? D'où naissent les péchés de nos yeux? D'où naissent les impossibilités de nos yeux? La présence de Dieu, nous en avons besoin pour nous redécouvrir, mais pour aussi réapprendre à marcher les yeux fermés. Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Tu dis qu'on s'arrête? 1 an? 10 ans? Et si Dieu me disait de m'arrêter toute ma vie, est-ce que ce serait bon quand même? Vous savez, la présence de Dieu, elle vient comme pour tester notre capacité à croire que Dieu est bon. Il y a une question fondamentale, et j'arrête ici. Il y a une question fondamentale. C'est de savoir juste, est-ce que Dieu est avec moi? Je lis un verset pour vous, on termine. Allez. Psaume 27, versets 2 à 4. C'est David qui parle. Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, plus que tout. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Mais de quoi est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il avait construit le temple? Non! C'est Salomon qui va le faire après. De quoi il parle? Il parle de la présence de Dieu. Il parle de la présence de Dieu. La présence qui est dans ta maison, qui est dans ton salon, qui peut être dans ta chambre, qui est avec toi partout. La grande nouvelle, c'est que tu peux demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ta vie. C'est un choix. Et regardez ce texte. Quand les méchants s'avancent contre moi, il y a des persécuteurs, il y a des ennemis, il y a une armée qui se campe contre moi. Nous, des fois, il y en a deux qui ne sont pas d'accord avec nous. Lui, il dit, il y a une armée qui se campe contre moi. Malgré ça, si une guerre s'élevait contre moi, je serais plein de confiance. Pourquoi? C'est pas David qui dit ça. C'est pas le David humain qui dit ça. C'est le David qui passe du temps dans la présence de Dieu. Parce que vous lirez d'autres psaumes où vous verrez que David dit « J'entends ce que mes méchants adversaires disent de moi et je suis abattu. » Parce que quand David entend des mauvaises nouvelles, il est comme vous et moi, il est abattu. Mais quand David, qui vit dans la présence de Dieu, entend une mauvaise nouvelle, qu'est-ce qui se passe? Il se réjouit parce qu'il sait que Dieu est au contrôle. Il sait que Dieu est au contrôle. Lorsque David dit habiter, le mot habiter, yashab en hébreu, c'est un mot qui est extraordinaire parce que ça veut dire rester. David dit, je veux rester. Ça veut dire vivre aussi. Je veux vivre dans la présence de Dieu. Ça veut dire aussi se marier. Je veux me marier avec Dieu. Si tu dois te marier avec quelqu'un, ne cherche pas le quelqu'un, cherche Dieu et Dieu te donnera le quelqu'un. C'est ça qui est important. Je veux me marier avec Dieu, je veux m'établir. Ça veut dire, je ne veux pas juste y transiter dans la présence de Dieu, je veux m'établir. Ce n'est pas une colocation, ce n'est pas un flirt, c'est un établissement définitif. C'est un mariage, c'est une alliance, c'est pour tout le temps. Mais le mot yashab, la racine yas, ça veut dire délivrance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu choisis la présence de Dieu plus que tout, quand tu refuses les pourquoi, David dans ce texte refuse les pourquoi. Il refuse de dire pourquoi il y a des adversaires, pourquoi j'ai toujours des persécuteurs, pourquoi les circonstances sont toujours contre moi, pourquoi alors que j'essaie de plaire à Dieu, mes fils se rebellent, pourquoi alors que j'essaye de plaire à Dieu, j'ai un Saül qui me persécute, pourquoi? Il refuse les pourquoi parce qu'il dit ce qui est important, ce n'est pas le Saül qui me court après, ce n'est pas mes fils qui se rebellent ou tout le monde qui s'élève contre moi. Ce qui est important, c'est de savoir, est-ce que je suis dans ta présence? Et ça, c'est la seule réponse. Je prie que Dieu fasse de nous un peuple qui est satisfait par une seule réponse. Est-ce que tu es là, Seigneur ? S'il me dit oui, alors ça va. Alors ça va. Dans le désert, je ne fane pas. Pourquoi ? Parce que je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau, mes racines puisent en lui. Et même si le chaud vient me frapper, même s'il serait normal de ne pas avoir de fruits, je reste stable parce que c'est sa présence qui est ma source. Je refuse de laisser la religion remplir mon cœur. S'il n'y a pas sa présence, je suis insatisfait. Je veux ta présence, Seigneur. Je préfère mourir au désert que d'entrer dans le pays de la bénédiction sans toi. Je préfère, Seigneur, même si je devais rester dans cet endroit sec, je préfère l'endroit sec que les anges qui m'aplanissent le sentier sans toi, Seigneur. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Et ce matin, j'aimerais qu'on ait un temps en tant qu'église, en tant que peuple de Dieu. Vous savez, il y a des moments donnés, on doit faire des choix individuels. Mais il y a des moments donnés, c'est aussi l'épouse qui doit dire, Seigneur, on choisit ta présence. On veut ta présence. Cette semaine, le pasteur Romaric nous envoyait à l'équipe plein de messages en disant, j'ai soif de Dieu, je veux plus de Jésus. Et je crois pouvoir dire qu'il est d'accord avec moi ce matin pour dire, nous, en tant que pasteur dans cette maison, on veut dire en équipe, on veut dire tous ensemble, on veut ta présence, Seigneur. On veut ça plus que tout, on veut ça plus que tout. Plus que les compétences, plus que les bénédictions. En fait, Seigneur, qu'importe la bénédiction, c'est ta présence, notre bénédiction. Ta présence, notre bénédiction. Parce que dans ta présence, je suis qui je dois être. Et j'aimerais faire un appel spécifique avant qu'on rentre dans ce temps en tant que peuple. J'ai parlé tout à l'heure du fait que dans la présence de Dieu, je suis qui je suis. Je suis celui qui a toujours été, qui a été pensé, créé, destiné à être. Je ne suis pas celui qui a été affecté par le péché. Je suis celui qui est solide, celui qui peut. Alors que je préparais ce message ce matin, moi-même, je disais ça à Dieu. Je dis, Seigneur, je ne veux pas oublier qui je suis. Et je crois qu'il y a des personnes dans ce lieu. Certainement, le manque de la présence de Dieu, c'est une réalité, mais aussi tout un stratagème de l'ennemi fait qu'aujourd'hui, vous avez oublié qui vous êtes vraiment. À partir du moment où tu es rentré une fois dans la présence de Dieu, Dieu t'a présenté ton vrai toi. Et tu sais qui tu es. Mais parfois, on l'oublie. Parfois on l'oublie, parfois même on dit à Dieu, Seigneur, j'aimerais redevenir celui-là que j'étais, ou j'aimerais revivre tel temps dans ta présence ce jour-là. S'il y a une personne dans ce lieu, tu dis, qui veut dire ce matin, qui veut rentrer vraiment dans cette dimension, de dire, Seigneur, je veux revenir dans ta présence parce que je veux te retrouver toi, mais je veux aussi redevenir celui que j'ai découvert. Celui que tu veux que je sois, celle que tu veux que je sois. Je reconnais que je l'ai perdu de vue. Je reconnais, Seigneur, que les circonstances m'ont volé cette identité. Je reconnais, Seigneur, que ce qui a régné dans ma vie, c'est plus une vie à ma hauteur plutôt qu'à ta hauteur. Alors si c'est ton cas, ce matin, on veut vraiment prier avec toi. Et moi-même, je fais cette prière pour ma propre vie. Si tu veux, tu sais que tu as besoin de revenir à cet endroit où tu redeviens non pas, tu comme un peu Abraham qui devient Abraham, comme Sarah qui devient Sarai, comme Jacob qui devient Israël. Si tu sens que tu as besoin de cet endroit-là ce matin, j'aimerais juste que tu lèves ta main à ta place. Parce que je veux prier avec toi. Je veux prier avec toi. Tu n'as pas été fait juste pour subir. Tu as été fait pour vivre la vie que Dieu a pour toi. La vie que Dieu a pour toi. La vie que Dieu a pour toi. Et puis pour tous ceux qui ont dans ce cœur de dire, Seigneur, je veux marcher à ton tempo. Je veux marcher avec toi. Des fois, ça passe aussi par des pardons. Seigneur, pardonne-moi parce que parfois, je t'ai laissé partir alors que tu me disais, c'est le moment de partir. Parfois, j'ai pesté parce que tu t'arrêtais et je voulais qu'on avance. Mais finalement, ce que je veux voir dans ma vie, c'est juste à présent, je veux aller plus loin en tant qu'église. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin avec toi. J'aime ta présence, Seigneur. J'aime ta présence, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui a soif de Dieu dans ce lieu, mets-toi debout, lève tes mains, mets-toi à genoux, qu'importe. Mais va devant Dieu ce matin, va devant Dieu ce matin.
Que ta présence,
oh Jésus, 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 Jésus,
ta présence.